C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Nous en avons presque toutes et tous dans un placard pour en étaler sur une tartine de pain au petit déjeuner, comme un ingrédient dans une recette de dessert pour en prendre une cuillère pour apaiser un mal de gorge. On pense bien entendu au miel. D'où vient le miel dans l'histoire, l'histoire avec un grand I ? À quand retrace-t-on les origines de l'apiculture ? Qui eut pour la première fois l'idée de manger du miel ? Pour revenir avec nous sur les origines de l'apiculture, la douce équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Bollin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Émilie de la Volière.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Émilie.
Joyeux anniversaire,
Émilie.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Vous vous trompez tout le temps, Alexandre.
Oui,
c'est le troisième.
C'est le troisième où il faut dire le prénom.
Merci, je suis honorée d'être avec mes confrères aujourd'hui et merci pour ce bel hommage.
Ouais, c'est bien normal. Vous nous faites l'honneur de venir enregistrer le jour de votre anniversaire et c'est super sympa. Et on vous a prévu un cadeau.
Un petit cadeau.
Oh. Avec Alexandre.
Ouais.
On vous offre 1 kilo d'abeilles, une reine et un kit pour démarrer vous-même votre petite ruche.
Oh, mais c'est incroyable.
Ouais, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, Guillaume a pensé à ça.
Oh, c'est fabuleux.
Là, vous voyez sur le cintre, on a mis le cintre là-bas. Il y a votre costume, voilà. Avec vous voyez, vous pouvez pour pas vous faire piquer.
Oui, bien sûr.
Voilà, qui fait un peu astronaute.
Oh, ça ira très bien à côté de mon potager.
Et dans la boîte en dessous, vous avez 1 kilo d'abeilles. Alors attention, quand on l'ouvre.
1 kilo d'abeilles, ouais. Ça se mesure en poids.
Ça se mesure en poids, les abeilles.
Très bien, très bien.
Vous allez apprendre tout ça.
Bruges, quoi.
Oh, je suis ravi. Je vais pouvoir m'inscrire à des stages d'apiculture.
On savait que ça vous tenait à cœur et que vous aimez bien. Travailler votre jardin, donc ça pourrait faire une petite touche très sympa.
C'est gentil de me faire sortir de ma zone de confort.
Hein. Ah, de rien.
Voilà, donc un début d'émission un peu particulier pour l'anniversaire d'Émilie. Et un cadeau dans le thème de notre sujet du jour, qui est donc le miel, et on évitera de libérer le kilo d'abeilles dans le studio. Hein. On va s'intéresser au miel et à ses origines, surtout l'origine de l'apiculture, quel nom qu'on donne à on va dire... la récolte du miel et tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, c'est un produit de grande consommation à travers le monde, mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi ?
L'apiculture, un vaste sujet. L'apiculture qui nous vient, une fois n'est pas coutume, d'Angleterre. Le peuple anglais, hein, on ne le sait pas. Voilà, c'est avant de regarder un peu plus près, on a l'impression que le miel a toujours été là. C'est faux. Le miel il est là depuis très peu de temps. Il date du XVIIe siècle. On ne prenait pas de miel avant. Donc, quand on avait mal à la gorge et ça continuait. Et le miel commence à faire son apparition à Liverpool. Et on attribue cette culture du miel et des abeilles à James Bee. James Bee, qui est un éleveur de pigeons à la base, qui se reconvertit dans les abeilles.
En fait, à la base, on pensait que les abeilles étaient des guêpes. On ne faisait pas la distinction entre les abeilles et les guêpes. Et donc James Bee a fait cette découverte et a donné son nom aux abeilles. Et donc effectivement, assez tard, comme l'a dit Alexandre. Et en fait, à la base, ce qui est rigolo, c'est que donc c'est le roi d'Angleterre à l'époque, Henri V, qui cherchait quelque chose à mettre sur ses tartines au petit déjeuner. Et James Bee a eu l'idée de lui proposer des guêpes, qui étaient en réalité des abeilles, écrasées sur ses tartines. Donc c'était littéralement de la pâte d'abeille.
Ah oui, donc on n'était pas du tout sur le miel tel qu'on le consomme aujourd'hui.
Non.
On était plutôt sur la purée.
La purée d'abeille. Hein.
La purée d'insectes qui était considérée comme des guêpes. Donc, que je comprenne bien.
Oui.
Avant le XVIIe siècle, il n'y avait pas de distinction faite entre les guêpes et les abeilles.
Pas du tout.
Personne n'avait pensé à les comparer.
Non.
D'accord.
Bon, c'est jaune et noir, c'est rayé,
oui,
ça
vrai,
vole,
oui.
Ça fait bzzz, ça pique.
Ah, c'est vrai qu'il voilà. Faut y penser. Il faut se dire, ouais. Tiens, il y a deux trucs jaunes, il faut regarder si c'est les mêmes. Et en fait, non. Quoi.
Et finalement, non. Et c'est donc James Bee donne son nom de famille à l'abeille, qui devient l'abeille voilà, en, en anglais Bee, et lance cette espèce de d'entreprise pour voilà, parce qu'il trouve que l'abeille a bon goût, mais on ne sait pas encore pourquoi. Il décide d'en manger et de voir que les gens se délectent de ça. Mais alors pourquoi l'abeille a bon goût? Et on se rend compte, enfin en tout cas James Bee se rend compte très vite que c'est le nectar hein, des abeilles produit pour alimenter les larves qui dans les ruches qui est en fait qui apporte le bon goût.
Oui, parce que du coup, à l'origine, on est sur cette purée d'abeilles écrasée. Est-ce que le roi apprécie au petit déjeuner ces tartines de purée d'abeilles?
On est sur un roi qui aime être surpris, qui aime l'innovation. Donc voilà, il mange quelque chose que les autres rois ne mangent pas. Donc de fait, il est plutôt content. Il y a un petit goût sucré, mais c'est vrai qu'il va quand même dire à James d'aller creuser un peu sa recette hein, et de proposer quelque chose qui soit quand même meilleur en bouche, parce que voilà, le morceau entier, même d'abeille concassée, c'est pas dingue.
On risque pas de se faire piquer.
Mais le dard, ça pique, c'est ça.
Ouais.
Donc il avait la langue enflée. D'ailleurs, il en est mort, hein. Il était allergique aux abeilles, donc il est mort assez vite.
Ouais, dans une pâte d'abeilles de non dédardée.
Ouais.
Qui, voilà, ouais.
C'est avec son fils Philippe, finalement, que va vraiment éclore l'utilisation du miel. Parce qu'après la mort de son père, forcément, on finit par comprendre qu'il faut enlever les dards. Voilà, petit à petit, en fait, James Bee est un grand naturaliste. Hein. Encore aujourd'hui, il est vraiment reconnu au sein de la profession et donc il devient assez vite obsédé des abeilles. Donc il se rend compte petit à petit qu'il y a un problème avec le dard et puis il cherche vraiment ce sucre. Et donc, obsédé qu'il est, il finit par... il essaye de goûter à tout. Voilà, il va se mettre à lécher des arbres, à lécher des fleurs. Il essaye de comprendre d'où vient le sucre. Et donc les ruches, en fait, hein, puisqu'évidemment il a observé qu'il y avait des ruches, voilà, il va commencer à essayer de mettre ses mains partout, à essayer de
goûter la cire.
Voilà, goûter plein de trucs, goûter différentes abeilles à différents moments de la journée aussi, hein, en se demandant si c'est parce que gorgées de soleil, elles sont plus pleines de sucre. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais petit à petit, bah, voilà, il va réussir à avoir des espèces de pâtes de plus en plus sucrées. Et donc, c'est le fils du roi, Philippe, qui petit à petit va lui avoir cette pâte qui évolue petit à petit sur ce que maintenant on appelle du miel, puisqu'un jour, là, James finit par comprendre comment on fait le miel. Enfin, d'où vient le miel ?
D'où vient le miel ? Alors, justement, pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas familiers de l'apiculture, est-ce qu'on peut décrire un peu comment ça se passe pour récolter du miel ?
Oh bah c'est écoutez, donc par exemple on a une magnifique ruche qu'on vous a offerte hein, Émilie.
Qu'est-ce qu'elle est belle.
Elle est belle hein. On vous a fait un petit on a macré votre nom
en pyrogravier.
Voilà, pyrogravé, voilà.
Il fallait pas.
Ah bah écoutez. Et donc on voilà, vous laissez en fait les abeilles dans les alimenter les petites stries,
les
alvéoles voilà, pardon, à l'intérieur de la ruche et puis une fois que les alvéoles sont bien gorgées de miel, vous enlevez chacun des plateaux qui sont d'alvéoles.
Amovibles, oui.
Voilà, vous les désoperculez, vous les mettez dans une centrifugeuse, vous tournez, et le miel est extrait des alvéoles.
Et vous récupérez la cire pour après pouvoir refaire des alvéoles, quoi.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Et les abeilles, pourquoi elles font ça, remplir ces alvéoles miel?
C'est des provisions, c'est pour se nourrir elles et les larves pendant les périodes d'hiver. Donc c'est du stock en fait.
Et donc quand on leur prend leur miel, qu'est-ce qui leur arrive?
Bah après on peut leur donner de l'eau avec du sirop. Et en fait elles mangent ça très bien. Elles mangent ça très bien et nous on a le miel et puis elles sont contentes quand même d'avoir de l'eau et du sirop.
Un genre d'échange. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on fait du miel et qu'on fait du miel à travers le monde aujourd'hui.
Et ce qui est rigolo c'est que James Bee a donné au miel le surnom qu'il donnait à sa femme, Honey. Et du coup, voilà, il l'appelait Honey, sa femme, et c'est un petit surnom affectueux qu'il avait. Et donc, il lui a donné le nom du miel, qui était une substance très douce et très sucrée. Voilà, donc un petit hommage.
J'irais même plus loin. Je pense que l'obsession pour les abeilles fait qu'il a transposé un petit peu l'amour qu'il pouvait avoir à sa femme, finalement, aux abeilles. Et donc, Honey, c'est devenu ses abeilles. Et je crois que sa femme l'a quitté quelques années plus tard, d'ailleurs.
Le coup du sort.
Et c'est aussi pour ça qu'on continue de dire Honey Cherry en anglais, en français. C'est grâce à James Bee. C'était le premier à utiliser le terme.
Très bien. Honey Cherry, on se retrouve juste après la pause musicale.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après l'after de Miel de Montagne. On a à peu près présenté les débuts du miel, comment est-ce que ça a été inventé, d'une pâte, d'une purée d'abeille au miel tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a donné un nom, James Bee, qui aurait fait la découverte. Est-ce qu'on peut creuser un peu le personnage et sa relation avec la royauté anglaise de l'époque ?
Ouais, donc James Bee qui est comment dire, un jardinier au château de Winchester.
Oui, il s'occupait des pigeons, il avait la volière, mais il était aussi jardinier, il occupait plusieurs petits postes.
Genre de mouton à cinq pattes.
Bon, Guillaume,
C'est quoi cette expression ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Bah si, c'est ça, non ? Un mouton à cinq pattes ou un canard à trois pattes qui travaille pour la royauté, jardinier, éleveur de pigeons, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui découvre le miel et les abeilles ?
C'est à l'occasion du grand concours royal de pâtes à tartiner, où en fait, Henri V cherchait à quelque chose à mettre sur ses tartines, et donc il organise le grand concours royal de pâtes à tartiner, et tous les sujets sont autorisés à présenter une pâte à tartiner pour les tartines du roi. Il va toutes les tester, et il choisira à la fin de ce grand concours royal la meilleure pâte à tartiner, et donc il offrira un poste de tartinier du roi à celui qui découvrira la meilleure.
On est dans le contexte, on est à peu près dans les années 1700, on est au XVIIe siècle en Angleterre, et donc sur les pâtes à tartiner, sur nos tartines, on met à l'heure du thé de la confiture. C'est très fade, on ne mettait pas beaucoup de sucre avec la confiture à l'époque, et Henri V en avait assez. Il avait un palais très fin et le sans sucre, impossible d'apprécier ses petites tartines. Et il perdait goût à l'heure du thé. Et donc il a voulu un petit peu redonner, redorer un peu le blason de la tartine.
De la tartine.
Ça a été un événement assez incroyable dans l'histoire de la tartine, d'ailleurs, dans l'histoire de la confiture, enfin, l'histoire des tartinades, parce que vraiment, ce concours royal a permis de faire émerger énormément, énormément de recettes. Alors, certaines qu'on a perdues aujourd'hui, mais la plupart qui sont des choses qui ont amené vers des choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Hein.
Moi, j'ai lu votre livre, Émilie, à ce sujet.
Très bel ouvrage.
La longue histoire de la grande tartine, qui parle de l'histoire de la tartine, justement, et qui est vraiment passionnant.
Et qui est une histoire dont on parle assez peu finalement, hein, déjà sur tout le côté tartine, donc le pain, la biscotte, etc. Il faut savoir que ça, c'est pas arrivé très vite. Et puis, voilà, vous le disiez, à l'époque, on avait des confitures qui étaient assez fades. De l'autre côté de la Manche, on avait le royaume de France avec les pains au chocolat, les croissants. Donc forcément, le roi d'Angleterre, lui, il se trouvait un petit peu diminué vis-à-vis de ça, en termes de gastronomie. Hein. Et donc, on en parle de ce grand concours de tartinade. Il y a plein de choses qui ont été expérimentées, ça a été assez fabuleux. Alors, avec plus ou moins de réussite, on se souvient de ce candidat qui a voulu faire une tartinade à la ciguë.
Hein. À la ciguë, tout à fait.
Voilà, en se disant, c'est une chouette plante que j'ai dans mon jardin. Alors, évidemment, il y avait des goûteurs avant que ça arrive au roi, donc ça en a tué quelques-uns.
Bon, le goûteur du roi est décédé. Ouais.
On a eu presque les prémices du chocolat à l'époque. Alors, on commençait un peu les importations de cacao, donc c'était des choses qui étaient très, très amères, donc qui n'ont pas plu à l'époque, mais qui se sont développées par la suite et qui ont pu faire émerger des marques qu'on connaît tous et toutes désormais, hein, de pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. On a eu d'autres expérimentations avec des animaux, hein. Si vous avez lu mon livre, je ne sais pas laquelle est votre préférée, mais...
Moi, il y a des expérimentations qui m'ont fait rire, il y a des expérimentations qui m'ont rendu curieux aussi. Je pense à la pâte, à la tartine de thon. On prenait un thon entier qu'on venait étaler du mieux qu'on pouvait sur une tartine de pain. Bon, alors ça m'a fait doucement rigoler.
Beaucoup d'animaux broyés, comme l'abeille à la base, l'ancêtre du miel, donc comme on le disait.
D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas là sur une frontière assez fine entre la pâte à tartiner et le pâté ?
Et ça, c'est justement ce que vous évoquez dans votre livre, Émilie.
Je suis ravie que vous le disiez.
Il y a tout un chapitre, pardon, excusez-moi de vous couper, mais pour Guillaume et pour nos auditeurs, il y a tout un chapitre sur la distinction entre l'apéro et le goûter. Qu'Emilie fait et qu'elle explique très bien qu'est-ce qu'on doit mettre sur une tartine de pain à l'heure du goûter et qu'est-ce qu'on doit mettre sur une tartine de pain à l'heure de l'apéro.
Je serais ravie d'en rediscuter avec vous à une autre occasion.
Je pense qu'il faut qu'on organise une émission spéciale tartine, en fait.
J'en serais ravie. Et puis je pourrais faire du miel.
Une tartinade, on s'organise une tartinade.
Une vraie tartinade, ouais. tartinade, peut-être en public d'ailleurs, comme ça on pourrait faire venir auditeurs et auditrices pour manger des tartines.
Oh. Très riche idée. Il faut savoir, vous le disiez Julien, que, et tout à l'heure Alexandre, que le roi avait donc un palais très développé. C'est à l'époque aussi qu'on commence à faire la distinction entre le sucré et le salé. Ouais. Voilà, parce qu'avant finalement... Une tartinade est une tartinade, et à force d'avoir des choses, voilà, du thon, du poulet, alors quand je dis poulet, c'est voilà, vivant, écrasé, etc. De la terre. Eh bien, le roi commence à se rendre compte qu'il a une appétence particulière à ce moment-là de la journée, plutôt pour des choses sucrées. Hein. Ouais. Et donc, c'est comme ça, évidemment, que James Bee remporte le concours, puisque finalement, il est celui qui propose la tartinade qui se rapproche le plus de quelque chose de sucré.
Ouais. Donc, notre protagoniste à nous, il devient, du coup, tartineur officiel du roi, premier tartineur. Mm. En quoi consiste ce poste ? Est-ce qu'il abandonne, du coup, toutes ses autres obligations ? On pense aux pigeons, on pense au jardin.
C'est un métier très simple en soi. Il doit préparer les pâtes à tartiner et les tartiner à l'heure du thé sur les tartines du roi, tout simplement. Il faut faire très attention. C'est le moment le plus complexe de la journée. C'est le moment où on tartine la tartine, si je peux me permettre. Et il ne faut vraiment pas dépasser les bords. Il faut que la pâte soit...
Sinon, le roi a plein de pâtes à tartiner sur les doigts. Et ça,
ouais.
C'est...
Mmh. Ce serait, s'il reçoit à ce moment-là, s'il a de la pâte à tartiner sur les doigts, on peut... Oui, ce serait dramatique.
Et je me permets d'ajouter que James Bee est un très, très bon tartineur du roi, à tel point que lorsque le roi décède, on le disait tout à l'heure, quand même par la faute de James Bee, hein, qui donc n'a pas enlevé les dards, eh bien, il reste tartineur du roi pour son fils Philippe. Et ça, c'est quand même dire tout le crédit qu'avait la royauté à l'époque pour ce premier tartineur officiel.
On le pardonne, c'est pas sa faute. Il pouvait pas savoir.
Complètement.
C'est les aléas de la recherche. Hein. C'est un chercheur, James Bee, quelque part. Hein. Il fait des expérimentations, comme l'a rappelé Émilie, pour aboutir finalement au miel, en dédardant au début les abeilles et puis en arrivant jusqu'à récolter leur produit. Donc c'est un chercheur, et d'ailleurs on lui doit donc Émilie l'a rappelé, c'est un naturaliste, et on lui doit d'autres découvertes sur les animaux. En plus d'avoir fait la distinction par exemple entre l'abeille et la guêpe, il a fait la distinction entre le renne et le cerf à une époque. Donc voilà, c'est plus que produire du miel et tartiner les tartines du roi, c'est aussi rechercher qu'est-ce qu'on pourrait tartiner ensuite. C'est le futur de la tartine.
C'est un vrai passionné. Il abandonne, hein, vous le disiez, il abandonne petit à petit les pigeons et le jardin pour se consacrer d'abord au miel, hein, sur les premières années. Et puis une fois que finalement qu'il a trouvé la recette du miel et qu'il a compris comment ça marche, il faut qu'il se trouve une autre obsession. Mmh. Et donc ça passe comme ça d'animaux en animaux et de tartinade en tartinade.
Vous avez parlé des cerfs et des rennes. Comment est-ce qu'on fait quand on est James Bee pour passer des abeilles aux cerfs et aux rennes dans l'optique de tartiner ?
C'est du pâté. On avait parlé de l'apéro tout à l'heure, mais justement...
C'est l'autre facette du personnage.
C'est l'autre facette du personnage qui ira, surtout sur la fin de sa carrière, plutôt vers le salé, et qui essaiera de trouver la meilleure viande à pâté.
D'ailleurs, il sera débauché par le roi de France pour aller au Mans et créer la rillette. La rillette du Mans qu'on connaît aujourd'hui, qui a été créée par James Bee.
Il finira sa vie au Mans, hein, James Bee, d'ailleurs.
Dans le chapitre 12 de mon ouvrage, j'explique très bien comment les personnes âgées perdent petit à petit le goût du sucre. Et donc, petit à petit dans sa carrière, voilà, il va s'orienter de plus en plus vers le pâté au détriment du sucré.
Très bien. Donc, en fait, une carrière assez équilibrée, finalement, entre sucre et salé.
Entre la France et l'Angleterre
entre
également.
Entre la France et l'Angleterre également.
C'est comme ça qu'il fera la distinction entre le cerf et le renne. C'est qu'il... C'est en goûtant le pâté de cerf et de renne, il se dit « Tiens, ça ne goûte pas pareil.
» Ça ne goûte pas pareil.
Ce n'est donc pas le même animal.
Les premières années, d'ailleurs, c'est essentiellement une fois que l'animal est transformé en pâté qu'il arrive à savoir lequel était lequel.
Oui, parce qu'avant ça, difficile, avant d'avoir établi des critères.
On arrive à la fin de l'émission. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour évoquer vos pâtes à tartiner, allez, même les pâtés peut-être, vos pâtés et pâtes à tartiner préférées, celles que vous conseillez à nos auditeurs et auditrices de tester, qui sortent un peu du lot peut-être.
On est sur des pâtes à tartiner actuelles ou on est sur celles qui faisaient partie du concours?
On prend tout.
C'est vrai que vous, Émilie, vous avez goûté des pâtes à tartiner antiques, si je puis dire, dans le cadre de vos recherches.
Tout à fait.
J'imagine que vous avez des pâtes très originelles qui ne sont pas du tout vendues dans le commerce aujourd'hui et que vous avez pu goûter, vous.
On a reconstitué un certain nombre de pâtes à tartiner qui avaient pu être présentées à l'occasion de ce concours. Alors évidemment, pas celles qui sont mortelles, hein, mais on en a fait pas mal à base de fleurs écrasées dans de l'eau de mer.
De fleurs écrasées dans de l'eau de mer. Donc ça, on est plutôt sur...
Du sucré salé, un peu.
Du sucré salé, oui.
C'est, alors, les fleurs, pas si sucrées que ça. Hein.
Ah, finalement.
On est essentiellement sur... non.
J'aurais dit.
Non.
C'est plus intermère.
On est plus sur du... Oui. C'est joli, hein, esthétiquement parlant. Voilà, on était sur de la pâte à tartiner visuellement très qualitative. Gustativement, c'est un petit peu plus compliqué.
Ça doit sécher la bouche un peu.
Oui, c'est assez âpre.
Ouais. Ouais.
Voilà, les fleurs. Mais ça reste, je trouve, un exemple assez intéressant de la créativité des habitants de l'époque. À base de topinambour. Voilà, des pâtes à tartiner qui mélangeaient topinambour et puis après d'autres légumes du potager. Là, on est sur des choses assez classiques, mais effectivement qu'on a pu recréer. Et puis, je vous le disais, celle à base de terre. Alors, il faut savoir que la terre en Angleterre, à l'époque, était très riche en oligo-éléments. Donc, c'était quelque chose d'assez bon pour la santé. Mais voilà, là encore gustativement...
ça goûte mal.
Je vous rappelle que celui qui a remporté ce concours, c'est quelqu'un qui écrasait des abeilles.
C'est pas peu dire.
C'est pas peu dire.
Moi, j'étais en Italie cet été. On était en vacances avec Alexandre et ma mère. Et on a pu goûter de la pâte de pâte. Donc, c'est les Italiens qui font ça, qui écrasent des fusilli sur des tartines. Donc c'est la pâte à tartiner de pâtes et c'est pas mal, c'est étonnamment très bon.
Est-ce que c'est pas trop sec ou trop craquant?
Ça a son charme.
Ça a son charme.
Ça a le goût de l'Italie.
Ouais, voilà. Du mélange, c'est très fort en moi, c'est ça qui me fait me rendre compte que j'étais allergique au gluten. Parce que c'est du pain, enfin, c'est des pâtes de blé sur du pain. Ça c'est un peu redondant en termes de base d'aliments. Mais au niveau des textures, c'est original, ouais.
Très original, en effet. Et vous, peut-être une pâte à tartiner qui sort du lot, de votre côté?
Alors, étonnamment, moi, la pâte à la patate. Pâte de patate, donc des patates écrasées, voilà.
Est-ce qu'on n'est pas sûr de la purée, là?
Alors... Alors, maintenant que vous le dites, Guillaume... Vous m'avez percé à jour, effectivement. Moi, je recommanderais plutôt la purée. Je suis très adepte de purée. Si vous allez à Auchan, il y a un mix purée qui est très très bon, qui mélange plusieurs types de patates. Donc, de la patate douce et de la patate classique.
Il y a d'autres types de patates ?
Avec des pommes de terre nouvelles, effectivement, et plusieurs autres variétés de pommes de terre. Il y a 6 variétés de pommes de terre différentes dans ce mix à patates Auchan. Donc, n'hésitez pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un régal.
Bon, Émilie, on espère vous revoir la prochaine fois avec un pot de miel.
Ah bah, avec grand plaisir.
Il y a vos abeilles qui vous attendent, là.
Bah
on les entend bourdonner depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs peuvent les entendre au micro, mais...
J'ai hâte.
On pourra peut-être les enregistrer en fond sonore pendant toute l'émission.
Un kilo d'abeilles.
Un kilo d'abeilles, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré aux origines de l'apiculture et de la pâte à tartiner finalement. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.